Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Alors tu nous entretiens depuis un certain nombre d'émissions de Demeures et Familles, cette chronique des relations entre des familles et un certain nombre de lieux dans Toulouse-Ville ou dans la périphérie, dans le gardiage de Toulouse. Alors aujourd'hui on va continuer avec l'hôtel Dulmot dans la ville de Toulouse.
Ben, on est en plein centre. On est dans la ville, dans le quartier parlementaire, et on va voir que, justement, on va évoquer le nombre de parlementaires, mais je vous laisse nous le présenter, à la fois l'hôtel et le constructeur.
Et les nombreuses familles qui s'y sont succédées, oui, avec quelques personnages dominants qui ne sont pas des moindres, nous le verrons. Aline, cet hôtel Dulmot, il se trouve où ?
Dans le quartier parlementaire de Toulouse.
Nino.
Oui.
Et il est voisin de l'hôtel de l'Estang que nous avons vu dans une précédente émission.
Qui lui fait pratiquement face.
Voilà. Et d'ailleurs, à l'origine, c'était un hôtel de même style, c'est-à-dire qui occupait une grande parcelle, mais qui n'avait pas de valeur particulière. Et cet édifice, l'hôtel Dulmot, qui est d'ailleurs, je crois, ouvert à l'occasion des Journées du patrimoine, il est connu pour son architecture innovante de la première moitié du XVIe siècle.
Alors, je pense qu'il a remplacé des demeures plus anciennes.
C'est ça.
Comme ce qui est arrivé à l'Estang. Il a rajouté un certain nombre de parcelles.
Comme le souvent à ce moment-là. Alors, sans lien direct, je crois qu'on l'avait déjà dit, avec le grand incendie.
Ah oui, oui, voilà. Oui.
Mais là, on est déjà dans les années donc 1525-1535.
Le siècle d'or.
Voilà, absolument. La deuxième... disons la deuxième moitié de la première Renaissance à Toulouse, et c'est un des premiers modèles qui va décliner tous les codes de l'ornementation de la Renaissance venus d'Italie mais aussi du nord de la France.
Donc un édifice très élégant, sans doute coûteux.
Ah.
Et édifié par quelqu'un qui avait les moyens d'édifier ce type de bâtiment.
Et les moyens et surtout l'envie de paraître, d'égaler, avec des ressorts forts.
Les Assésas, les Bernuys, oui. Etc.
Et ce constructeur, donc, qui est bien le nom de l'hôtel, Jean Dulmot, mais je pense que ça se prononçait un peu à la latine à ce moment-là. Et d'abord, lieutenant au Sénéchal, donc il est dans les bons Starkenblock, on dirait, hein, pour occuper
des
postes importants.
Alors, il est d'une famille toulousaine, sans vouloir faire de... Et il est d'une famille patricienne, on va dire.
Une bonne famille, oui. Au sens de l'époque, puisque plusieurs aïeux sont capitouls. On en trouve déjà dans les annales de 1353. Enfin, il a un pédigré, celui-là aussi. Et au fond, il commence bien. Donc, il est avocat général au moment où il construit l'hôtel et quatrième président au Parlement. Hein, donc, il occupe vraiment...
Une charge de très haut niveau.
Et donc, des appuis un peu partout. Donc, c'est le projet fou, l'œuvre de sa vie, si vous voulez. Mais c'est surtout ce qui va le perdre. Parce que... il mène une carrière sulfureuse.
Ah.
Alors, c'est pas moi qui le dis.
Il aime le luxe, mais il n'en a pas le moyen, c'est ça?
Absolument. Parce que sa richesse provenait en grande partie d'extorsions d'argent facilitées par sa position de premier président au Parlement de Toulouse, disent les chroniques. Et ça, c'est prouvé. Tellement prouvé que, par ses manigances et malversations, il a été condamné pour corruption en 1536 par ses pairs. Même Chaland, notre chroniqueur du 19e siècle, dit... Il cite les chroniques de l'époque en disant « En cours de parlement, il pensait trouver des amis, des appuis. Il n'eut en face de lui que des juges.
» Alors, je pense qu'il y a eu une plainte d'un marchand de Montauban, je crois.
Un plus hardi que les autres, sans doute.
Qui a osé.
Alors qu'il logeait dans son hôtel des artisans, comme locataire. Ah. Un certain... Oui, vous avez tout à fait raison. Un marchand, Jean Martel, qui est à Montauban, lui, mais il fait certainement commerce à Toulouse. Il a été lésé par le magistrat et il décide de réunir des preuves de sa corruption et porte le dossier devant la justice royale. Ah. Donc, Ulmo est reconnu coupable, comme on vient de le dire, marqué au fer rouge, une horreur, ah. Une procédure criminelle.
Ça, c'est particulièrement dégradant.
Place Saint-Georges, absolument, au vu et au su de tout le monde. Donc, on pourrait penser que ça en reste là et que l'hôtel qui est achevé, qui est un des plus beaux hôtels de la ville à ce moment-là, eh bien non, puisqu'il est envoyé, exilé, je pourrais dire, emprisonné même en Bretagne, à Saint-Malo, où il est pendu en 1549, voilà, sans pouvoir retrouver son bel hôtel.
Et alors, qu'advient-il de cet hôtel ? Il n'a plus de propriétaire ?
Oh, il a des locataires, il a surtout une fille. Donc c'est souvent la manière de transmettre son patrimoine, c'est par le...
Et est-ce que le patrimoine n'aurait pas été donné en dédommagement de ce qu'il devait à son...
Le marchand qui avait donc entamé la procédure, effectivement se paye sur l'hôtel.
Voilà.
Hein, il récupère cet hôtel en dédommagement. Et il ne le garde pas, parce que ce n'est pas du tout son but, ce n'est pas de le garder. Malgré la devise qu'on trouve sur l'un des murs, ma persévérance triomphe de tout, je ne vous le dis pas en latin, mais ça a été traduit, bien sûr, les choses se précipitent. Voilà. Jean Martel le vend à Pantaléon Jobert, qui sera également président au Parlement, mais qui ne restera pas longtemps. Mais c'est ce Pantaléon Jobert qui va... finir l'édifice, hein, qui va terminer...
Ah oui. Donc il n'était pas tout à fait achevé.
Il n'était pas tout à fait achevé. Et je renvoie nos auditeurs donc à des canaux beaucoup plus pratiques pour connaître l'architecture de ce bel hôtel, et le visiter peut-être. Donc il va passer au XVIIe et au XVIIIe siècle, après division, hein, avec l'hôtel de la rue Saint-Jacques qui est à côté, entre différentes mains de parlementaires.
Ah, on reste dans les grandes familles de parlementaires.
On reste dans les grandes familles de parlementaires, ce ne sont pas des capitouls.
Le marchand toulousain n'a été qu'un épisode malheureux.
Il a fait sauter le bouchon, je dirais.
Oui.
Voilà, de la malversation. Et on va s'intéresser à un personnage que les Toulousains ne connaissent pas forcément. Je ne sais pas s'il y a une rue Fieubet à Toulouse, parce que c'est le nom de ce repreneur.
Ça va vous poser une colle. J'adore le nom des rues, mais je vais regarder.
Oui, nous le savons bien tous.
Il faut attentivement écouter les chroniques des noms de rues d'Aline Thomas sur cette même antenne.
Et je souhaiterais qu'on s'attarde un petit peu sur ce personnage qui va reprendre l'hôtel, oui, autour de 1653, donc en plein milieu du XVIIe. Et c'est un personnage, je le dis en guise d'introduction, puisqu'on ne va pas s'attarder sur sa personnalité et surtout son parcours. C'est vraiment le profil de l'honnête homme du milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire juste avant le siècle de Louis XIV, proprement dit. Il est formé, si vous voulez, par une famille d'Europe, bien sûr. Il était formé issu d'une grande famille d'Europe. Mais il était surtout formé aux finances, au droit. Et il a des attaches en haut lieu, c'est-à-dire à Paris.
Voilà. Ah, donc c'est une famille qui est bicéphale.
Bilocalisée.
Oui.
La branche parisienne, qui aussi aura une belle carrière au Parlement de Paris. Pour ceux qui connaissent le patrimoine parisien, un bel hôtel de Fieubet qui se trouve au bord de la Seine, pas très loin de la Bastille. Et la branche toulousaine, qui est aussi, tout aussi éminente, va s'installer donc à l'hôtel d'Ulmo et va y rester tout le XVIIe jusque dans les années... par mariage, c'est passé à d'autres noms de famille que nous allons évoquer. Mais comme je voulais m'attarder sur Gaspard de Fieubet, c'est un des grands présidents au Parlement de Toulouse, un des grands parlementaires qui a plusieurs facettes qui nous intéressent, nous, pour cette chronique, puisqu'il y a à la fois des compétences juridiques. Il a des moyens, s'il faut un homme fortuné, il est compétent en sciences, en lettres, il est promoteur d'institutions culturelles. Bon, voulez-vous qu'on développe un petit peu ces questions ?
Oui, bien sûr, parce que c'est un personnage qui était très très important pour la ville.
Donc, il a un père, Guillaume de Fieubec, président amorti au Parlement de Toulouse, mais qui était ce qu'on trouve également en Provence. Il a également un frère cadet, Bernard de Fieubet, secrétaire des commandements de la reine Anne d'Autriche et intendant des finances.
Oui.
Donc, il est déjà bien entouré.
Oui, oui.
On peut dire de Gaspard de Fieubet, donc notre homme d'Ulmo, qu'il est un des instruments de la politique de Louis XIV dans le sud de la France. Et malheureusement, en particulier contre les protestants. dont il va restreindre les droits. Et puis, deuxième trait de...
Avec, je pense, une forte imprégnation des positions du Parlement de Toulouse à l'égard des protestants.
Et comme on le sait, on peut trouver les justifications dans les chroniques, mais et dans les arrêts, il y a une surenchère. C'est-à-dire que quand le président indique une ligne, vous trouverez toujours des conseillers qui vont aller plus loin, hein, qui vont vouloir rendre des arrêts encore plus... Bon, c'est vraiment les caractéristiques de l'époque. Et il est également rattaché au courant janséniste. Alors, ça serait un peu long à développer, malheureusement. Mais si vous voulez, quand on aligne le fait d'être le bras armé du roi dans la province, et d'être jusqu'au boutiste, c'est-à-dire d'avoir des conseillers qui vous suivent et qui en font de la surenchère, et d'être en plus janséniste, eh bien, on peut s'attendre au pire un petit peu dans dans les résultats.
Alors, donc, il va garder l'hôtel... Il va avoir une succession familiale, cet hôtel ?
Alors, il meurt en 1686 au château de Caumont. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver si c'était un hasard ou si c'était une demeure de famille. Mais en tout cas, par mariage, après lui, sa fille Catherine épouse en septembre 1690 Pierre-Paul de Lombraille, seigneur de Rochemontès et de Dau, également conseiller au Parlement de Toulouse.
Donc
et
avec là, une installation à la campagne.
Oui.
Enfin, à la campagne, à Rochemontès.
Au moins par les
très beaux domaines.
Par les mariages. Et là, si vous voulez, Ulmeau, qui va être dans le patrimoine, qui va être également dans la succession de la fille de Fubé, va passer par alliance à la famille de Rességuier, autour de 1750. Et là, on retrouve toutes les familles, Boyer-Drudas, Cambon, Dubourg, Châtenay de Puységur, qui sont dotées des plus belles campagnes autour de Toulouse.
Donc voilà une très très belle succession pour cet hôtel, tout à fait visible aujourd'hui, très habité.
Et dont on peut voir des portraits du dernier représentant de la famille Rességuier à l'hôtel du Mai, avec sa femme.
Merci beaucoup, Michel, pour cette histoire de l'hôtel d'Ulmont.
Bonne semaine.